RFJ Info.
Le journal de Raphaël Girardin.
Bonjour, le Parlement jurassien se prononce la semaine prochaine sur la levée d'immunité des juges du tribunal cantonal suite à l'affaire Pauline Queulot. La commission de la justice appelle au rejet de cette demande. Le début des playoffs en Swiss League de hockey sur glace, c'est dimanche. Le HC Ajoie affronte le HC La Chaux-de-Fonds pour un derby vu et revu cette saison. Alors quelle saveur cette série nous réserve-t-elle? Nous sommes allés le demander aux supporters des deux équipes. Deux médailles de bronze supplémentaires pour la délégation helvétique à Pyeongchang. L'équipe de curling du CC Genève a battu le Canada ce matin. Médaille de bronze également pour la vaudoise Fanny Smith en ski cross. Quelques éclaircies sont possibles cet après-midi, mais le froid restera mordant. Maximum de 0 degré en plaine et de moins 3 à 1000 mètres. L'affaire Pauline Queulot occupera le Parlement jurassien la semaine prochaine. Le législatif doit se prononcer sur la levée d'immunité des juges du tribunal cantonal. La demande émane du procureur neuchâtelois, Pierre Aubert, qui enquête sur la dénonciation pénale d'Yves Gigon. Selon ce dernier, les juges ont violé leur secret de fonction en communiquant sur la procédure disciplinaire menée contre Pauline Queulot. La majorité de la commission de la justice estime qu'il n'y a pas lieu de lever cette immunité. Alexandre Rosset, vous nous rappelez tout d'abord brièvement les faits qui entourent cette affaire.
Oui, tout a commencé le 23 novembre 2017. Le tribunal cantonal a informé ce jour-là le bureau du Parlement qu'il soupçonnait Pauline Queulot de mensonge dans le cadre de l'obtention de son brevet d'avocat. Pauline Queulot, que le législatif s'apprêtait à élire à sa présidence. En tant que responsable de la formation des avocats stagiaires dans le Jura, le tribunal a par la suite envoyé deux communiqués à la presse pour informer le public sur ses soupçons et dans un deuxième temps pour se défendre face à des parlementaires qui l'accusaient d'outrepasser ses fonctions. Des accusations que le député Yves Gigon a portées devant le ministère public par le biais d'une dénonciation pénale. Le procureur général jurassien Daniel Farine a décidé de confier l'affaire à un procureur extraordinaire extérieur au canton, soit le Neuchâtelois à Pierre Aubert, en raison des liens qui existent entre le ministère public jurassien et le tribunal cantonal.
Et alors Alexandre, j'ai de la peine avec votre prénom décidément, pourquoi Pierre Aubert demande désormais au Parlement de se prononcer sur la levée d'immunité des juges en question?
Eh bien parce que c'est nécessaire pour qu'il puisse éventuellement engager des poursuites contre les juges du tribunal cantonal. La commission de la justice s'est donc penchée sur cette demande de levée d'immunité lors de plusieurs séances. Elle a également entendu les 5 membres du tribunal. Au terme de son examen, la commission a retenu une procédure en 2 temps. Elle propose tout d'abord aux députés de voter sur une entrée en matière, puis de se prononcer sur l'examen de la requête en tant que telle. Concernant l'entrée en matière, la commission recommande à l'unanimité au Parlement de l'accepter dans la mesure où les faits reprochés sont en lien direct avec la fonction des juges. Pour l'examen de la requête, la commission est en revanche divisée. La majorité estime qu'il faut rejeter la demande de levée d'immunité. Elle considère que les communications effectuées par le tribunal cantonal se justifiaient de par la loi et le bon fonctionnement des institutions. Ça ne constitue donc pas une infraction au sens du code pénal. Il existait selon la majorité un intérêt public prépondérant à ce que ces informations soient données.
Et du coup, quels sont les arguments de la minorité de la commission qui recommande, elle, alors, d'accepter la demande de levée d'immunité?
Elle estime de son côté qu'il y a bien eu violation du secret de fonction au sens du code pénal. Selon la minorité, le tribunal cantonal n'avait pas à communiquer au bureau du Parlement, puis à la presse, alors que la procédure disciplinaire contre Pauline Queulot était toujours en cours. La minorité de la commission souligne que les juges ont surestimé l'intérêt public dans ce dossier au détriment de l'intérêt privé de Pauline Queulot.
Merci Alexandre Rosset. Le Parlement se prononcera donc sur cette demande de levée d'immunité lors de sa séance de mercredi. Les partis politiques jurassiens ont arrêté leur mot d'ordre en vue des votations du 4 mars prochain. Au niveau fédéral, le peuple doit se prononcer sur l'initiative Nobilag qui demande la suppression de la redevance radio-télévision. Il statuera également sur le nouveau régime financier 2021 qui vise à prolonger la perception de l'impôt fédéral direct et de la TVA. Tour d'horizon des prises de position dans la région avec François Comte.
L'UDC Jura fait cavalier seul sur Nobilag. Le parti agrarien est l'unique formation politique jurassienne à appeler à voter oui. Tous les autres partis militent pour le non, soit le PDC, le CSPOP, le PLR, le PEV, le PS, le PCSI et les Verts. La Chambre de commerce et d'industrie du Jura rejette également le texte. L'initiative est par ailleurs combattue par plusieurs organisations et personnalités issues de divers milieux comme ceux de la culture et du sport. Quant au nouveau régime financier, financier, c'est l'unanimité. Tous les partis, ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie du Jura, soutiennent le projet.
Des votations cantonales sont également au calendrier. Le 4 mars, les jurassiens doivent s'exprimer sur deux questions de façon consultative. La première porte sur la poursuite des études pour l'enfouissement des déchets nucléaires dans le domaine d'implantation Jura-Est, dans le canton d'Argovie. La seconde demande s'il faut abandonner la procédure pour le site du pied sud du Jura entre l'Argovie et Soleure. On retrouve François Comte.
Plusieurs partis appellent à voter deux fois oui à des degrés d'enthousiasme divers. C'est le cas de l'UDC, du PLR, du PDC, du PEV, du PCSI et du PS. Le CSPOP ne donne pas de mot d'ordre, mais penche pour le double oui. De leur côté, les Verts n'ont pas réussi à définir une recommandation sur la première question suite à une égalité de voix lors de leur Assemblée générale. Ils militent toutefois pour le oui à la seconde question, soit l'abandon des études pour le site pied sud du Jura. Enfin, la JUN, l'Alliance jurassienne non nucléaire, penche pour le non à la première interrogation et pour le oui à la seconde.
Voyager à travers le monde tout en restant dans sa cuisine, Au Jura mais d'ailleurs est un livre de recettes du monde qui est sorti cette semaine. À l'origine du projet, deux étudiantes de l'école de commerce de Porrentruy, Colline Bibler et Nadia Husler. Les deux jeunes femmes ont choisi de créer cet ouvrage dans le cadre de leur cursus scolaire. Elles ont rencontré 10 personnes d'origine étrangère vivant dans le Jura et leur ont demandé de partager des recettes typiques de leur pays. Nadia Husler a particulièrement aimé découvrir la cuisine indienne. Si les recettes l'ont charmée, c'est surtout sa rencontre avec Anju, une indienne qui l'a marquée.
Son parcours de vie, ça m'a beaucoup touchée parce qu'elle a été adoptée à l'âge de 3 mois. Mais malgré tout ça, en grandissant, elle a toujours voulu garder ses cultures. Elle s'intéresse beaucoup à l'Inde, à ce qui s'y passe. Et puis je trouve ça vraiment intéressant de connaître tout ça.
Alors on parle de mets d'ailleurs, mais on parle aussi de recettes d'ici.
On a aussi rencontré une personne qui est à Joulotte. Et qui nous a donné 3 recettes, donc vraiment typiques du Jura, les rejetés à joulot, le boudin, les ch'triflats. Et je trouve ça super intéressant qu'on puisse un petit peu revisiter un petit peu les recettes de nos grands-mères qui sont un petit peu oubliées aujourd'hui. Peut-être qu'on ne sait plus forcément comment les cuisiner, donc c'est super intéressant.
Le livre Au Jura mais d'ailleurs est aujourd'hui disponible à la vente. Grâce à ce projet, les deux étudiantes parrainent également une association humanitaire pour améliorer les conditions d'études des enfants en République démocratique du Congo. Plus d'informations sur notre site rfj.ch. Une mesure d'économie inquiète l'université de Neuchâtel. Dans le cadre du budget 2018 de l'État, le Grand Conseil neuchâtelois a décidé de réduire d'1 million le montant de la subvention cantonale. Ce montant s'ajoute à d'autres mesures d'économie déjà imposées à l'université. En tout, ce sont près de 3,2 millions de francs qui font défaut. Selon le Conseil de l'université, ces coupes mettent en péril l'équilibre des principaux piliers du financement puisqu'elles entraînent une baisse du nombre d'étudiants ou des projets de recherche. Or, ce sont notamment ces deux facteurs qui conditionnent la hauteur du subventionnement. Le bilan s'aggrave dans la Ghouta orientale. 5 jours après le début des raids intensifs sur l'enclave rebelle proche de Damas en Syrie, le bilan s'élève à plus de 400 morts, dont 150 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Un accord de cessez-le-feu n'a pas pu être trouvé. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui pour discuter d'un projet d'une résolution de trêve en Syrie.
RFJ, il est 12h24.
Le sport avec la loterie romande.
Le coup d'envoi des play-offs de Swiss League de hockey sur glace approche à grands pas. Les quarts de finale entre le HC Ajoie et le HC La Chaux-de-Fonds démarrent dimanche. Le premier acte se jouera au Mélèze à 18h. Ce sera le 11e derby de la saison. Mais même à l'approche des play-offs, l'affiche finit par ennuyer certains supporters. Jérémy Pignard.
Un derby devenu presque trop banal, même envoyer des textos chambreurs à ses amis à Joulot, Laurent Kilcher, le président du fans club du HCC, s'en est lassé.
Mais même pas tant que ça, parce qu'on l'a fait toute la saison, donc il n'y a plus le même intérêt. Ça n'a plus rien à voir. Avant, quand on se voyait 4 fois dans la saison, c'était un petit peu l'événement, mais là, toutes les 2 semaines, on s'est vu en moyenne, donc c'est différent.
Côté à Joulot, Bastien Béret, un leader des ultras, garde quand même une certaine excitation. Les playoffs, ça reste un événement.
10 matchs dans une saison, c'est beaucoup. Après, on passe en playoffs maintenant. C'est encore un autre championnat, c'est comme les joueurs joueurs le disent, hein, ça change complètement. Il va falloir passer par-dessus ces 10 matchs. Pour un ultra, c'est un match, on va tout donner comme d'habitude. Ça reste quand même un derby et puis on a quand même envie de battre le voisin.
Pourtant, Laurent Kilcher, le supporter du HCC, a encore du mal à se mettre pleinement dedans, surtout moins de 2 semaines après une double confrontation entre les deux clubs.
Alors avant le match, il n'y a plus vraiment la même intensité. Après, pendant le match, c'est clair que selon l'évolution du jeu, ben, ça remonte vite. Mais ça reste assez, c'est un derby, puis après le match, on va boire une bière ensemble, on va dire.
Et si les bières sont aussi nombreuses que les derbies, l'affiche risque bien à la longue de saouler les supporters.
Et hier, une section d'ultra du HC Ajoie, les Enredji, a décidé de boycotter le premier déplacement Mélèze dimanche. Ils reprochent des conditions d'accueil et des exigences de sécurité trop drastiques. On a également évoqué ce quart de finale entre le HCA et le HCC avec Victor Barbero ce matin dans la matinale. L'attaquant limousin se lancera dans le bain aux côtés des Québécois Devos et Hazen dans le premier trio offensif. Un Victor Barbero qui s'apprête à vivre ses derniers playoffs en jaune et noir après 3 saisons sous le grand chapeau.
C'est une décision que j'ai prise à la pause en novembre. Disons que c'est plutôt un choix de vie. Si ça tenait que sur le plan sportif, je serais resté évidemment. Mais voilà, on va dire que c'est tout ce qui est extra-sportif. J'ai décidé de me rapprocher un peu de ma famille, de revenir un peu aux sources. C'est aussi pour mon ami qui me suit ici depuis quelques années. C'est un peu difficile d'être loin de sa famille. On a des projets familiaux. Voilà, je ne vais pas détailler le tout, mais c'est en grande partie pour ça.
Ça veut dire que vous cherchez un club en Ligue Magnus ?
Oui, tout à fait, oui. Mais en France, ça se décide beaucoup plus tard qu'en Suisse. Hein. C'est beaucoup moins business, les contrats signent mars, avril, même en mai. Donc je ne sais toujours pas ma future destination.
Des propos recueillis par Cyprien Lovi. L'interview complète de Victor Barbero est à retrouver sur notre site internet rfj.ch. Notez encore que le HC La Chaux-de-Fonds renforce sa légion étrangère en vue des playoffs. Le club neuchâtelois a engagé l'attaquant canadien Brock Higgs jusqu'au terme de l'exercice sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires. Brock Higgs a évolué cette saison avec Graz en première division autrichienne. Il a été le meilleur compteur de son équipe. Et pour terminer cette page hockey, sachez que nous reviendrons sur cette série de playoff ce soir dans notre émission sportive Cap Sport. Nous accueillerons un ancien joueur des deux équipes, Michael Neininger. L'avenir du volley suisse sera également au cœur de cette émission. Cap Sport, c'est ce soir dès 18h30. Le FC Basse-Cours prend de la hauteur. L'équipe d'Anthony Siroufo s'en va affronter le FC La Chaux-de-Fonds ce soir en match amical. Le coup d'envoi sera donné à 19h30 au stade de la Charrière. Le défi pour les Vadets de Première Ligue sera intéressant à relever face à l'actuel 10e de Promotion League.
Le journal des jeux avec le nouveau VV T-Roc pour un fantastique plaisir de conduire. Garage Maurice Montavon à Develier et Automobile Olivotti à Port-en-Truy, vos concessionnaires Volkswagen. Volkswagen.
La moisson suisse n'en finit plus à Pyeongchang. La délégation helvétique a garni son panier de 2 nouvelles médailles ce matin grâce au curling et au ski cross dans ces Jeux Olympiques en Corée du Sud. Le CC Genève a conquis le bronze. L'équipe masculine a dominé le Canada 7-5 dans la petite finale du curling masculin. Elle a très bien réagi après son élimination hier en demi-finale, l'un des curleurs suisses Valentin Tanner.
Par rapport à hier soir, où c'était pas la crise, hein, vraiment pas, mais c'est clair que c'est un peu difficile de se cacher ça, quoi, qu'on s'est fait quand même bien battre. Mais non, l'état d'esprit ce matin, c'était vraiment bien. Et on a fait vraiment tout comme d'habitude, comme un match, le round robin, comme si c'était le premier match ou le dernier match, ça change rien. Et voilà, c'est juste que c'est la dernière chance. Comme on a dit, c'était peut-être l'occasion une fois dans notre vie. Alors voilà, il faut tout donner, et puis surtout pas regretter d'avoir fait un truc peut-être à moitié ou pas s'être appliqué vraiment. Donc vraiment jouer sans regret et quand même avec du plaisir. Et c'est exactement ce qu'on a fait et ça s'est bien passé.
Et tôt ce matin, c'est Fanny Smith qui a lancé à merveille la journée pour le camp suisse en Corée du Sud. Après 2 essais infructueux à Vancouver et à Sochi, la skieuse vaudoise a enfin décroché une médaille olympique. Elle s'est emparée du bronze. La course a sacré la Canadienne Kelsey Sewa devant sa compatriote Brittany Phelan. Fanny Smith a dû lutter pour s'octroyer le bronze olympique. Ses désillusions des 2 derniers jeux sont derrière. C'est enfin la consécration pour la vaudoise Fanny Smith.
Après 2 Olympiques, c'est enfin la bonne. J'ai réussi à me relâcher. J'ai vraiment dû me battre pour cette médaille. Donc, elle signifie encore plus pour moi.
Votre petite faute au milieu du parcours, ça, c'est quelque chose. Tout d'un coup, on s'est dit non, pas 4e.
Oui, cette faute m'a coûté énormément de vitesse. Surtout, je glissais très bien. Donc, un grand merci à mon skiman Roberto. Et c'est vrai que, qu'on est là pour se battre à chaque virage, à chaque saut. On est des compétiteurs, donc j'y allais pour essayer de remporter la médaille d'or. J'ai fait une erreur, voilà, c'est arrivé, mais après je me suis battue comme faire pour pouvoir consolider cette troisième place.
La Suisse compte à présent 13 médailles dans ses Jeux olympiques de Pyeongchang. Alexia Paganini n'a pas connu la même réussite en patinage artistique. La jeune Suissesse de 16 ans a pris le 21e rang du concours. La victoire est revenue à l'athlète olympique russe Alina Zagitova. C'est d'ailleurs le premier titre de cette délégation à Pyeongchang. Elle a devancé sa compatriote Evgenia Medvedeva et la Canadienne Caitlin Osmond. Les athlètes olympiques russes qui disputeront justement la finale du tournoi masculin de hockey sur glace, ils ont dominé la République tchèque 3-0 ce matin. L'autre demi-finale entre le Canada et l'Allemagne commence à 13h10. Les Jeux Olympiques sont entachés d'une nouvelle affaire de dopage. Une bobeuse russe a été contrôlée positive à une substance illicite. C'est la Fédération russe de bobsleigh qui l'a annoncé ce matin. Bel après-midi à tous.
Le journal des Jeux avec le nouveau VW T-Roc pour un fantastique plaisir de conduire. Garage Maurice Montavon à Develier et Automobile Olivotti à Porrentruy, vos concessionnaires Volkswagen.
Volkswagen. Et je vous rappelle que notre émission olympique Les Seigneurs des Anneaux va débuter juste après le flash de 13h et je serai accompagné aujourd'hui, comme hier, de Mathieu Schaffner. Et pour la suite de cette journée, Météo News prévoit le développement de quelques éclaircies avec des températures qui resteront très basses, à savoir au mieux moins 3 aux Franche-Montagne et 0 en plaine. Demain, des stratus sont annoncés jusque vers 1500 mètres d'altitude sur la région, ne se dissipant que partiellement en cours de journée. Au-dessus, le temps sera assez ensoleillé et les températures resteront froides, avec un mercure compris entre moins 3 et moins 5 degrés à l'aube, puis au mieux jusqu'à 2 degrés sur notre région.